Bien, bah bonjour et puis bon courage pour finalement cette dernière presque session ou en tout cas session de communication à proprement parler. On va essayer de fonctionner sur un obscur finalement mélange entre une table ronde telle que l'a menée hier Michel et puis deux sessions de communication, donc une première avec Sylvie, François, Jacques, Valérie et j'ai oublié. Et Françoise aussi. Donc trois communications qui vont essayer, me semble-t-il, de vous présenter non pas des études de cas à proprement parler, mais des manières dont des questions à la fois méthodologiques et des questions de posture de chercheurs avec des profondeurs un peu historiques pour commencer, à savoir comment quelque chose qui est de l'ordre du registre de l'affectif vient influer, questionner autant le et les chercheurs, on va dire, allez. Dans la grande discipline de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme pour aller très très vite. Les postures, les questions aussi sur des objets, des intercesseurs, il y aura du paysage, on aura de l'ambiance. Bref, comment ce registre-là de l'affectif vient un peu questionner le faire et le faire avec, donc avec une visée opérationnelle. Et dans la seconde partie, François, Benoît et moi, parce qu'il y a une espèce là aussi de cohérence sur un bouclage de toutes les questions qu'on a travaillées, des questionnements, mais aussi des méthodes, avec, on l'espère, une petite montée en généralité. Donc le principe est toujours le même, 20 minutes, et vraiment 20 minutes, pour chaque présentation, après question, une petite pause, et puis on recommence pour la seconde session. Alors il faudra juste veiller à s'éloigner un peu du tableau, là, pour la présentation, parce que nos têtes vont légèrement tout boucler.
Bien. Bon.
Merci, France.
Ok, bon, ben, comme disait. Ah, ça marche pas? Si? Ouais. Comme disait Georges-Henri, hein, il va y avoir de l'ambiance, c'est pas? Et on va démarrer tout de suite, donc, avec l'introduction. Alors, moi, je vous propose de considérer l'environnement au-delà de ses aspects biophysiques ou physico-chimiques, plutôt au sens de ce qui nous environne. Et je voudrais rappeler, dans un premier temps, que sans humain à environner, il n'y a pas d'environnement. Il n'y a plus que des écosystèmes, et que donc cet environnement-là, tout le monde le sait, mais ça fait bien de le répéter, loin d'une transcendance qui s'imposerait d'elle-même, est construit par les sociétés. Si on adopte une telle perspective, alors on peut penser une écologie qui soit intimement liée à ce que les gens perçoivent, vivent ou interprètent. Une écologie donc qu'on pourrait qualifier de sensible. Cette écologie sensible imprègne de plus en plus les aménagements qui sont conçus en relation avec les cultures locales et également avec les valeurs attribuées aux biens environnementaux. Alors évidemment, dire ça, c'est ne rien dire, parce qu'une telle approche, elle interroge évidemment ce qui constitue le bon environnement pour les sociétés concernées, celui dans lequel l'amélioration des conditions environnementales au sens strict, qualité de l'eau, de l'air, biodiversité, gestion économe des ressources, sol, énergie, je vous en passe, et des meilleurs, conduira à une amélioration des conditions de vie. Celui dans lequel les dispositifs techniques, les fameuses écotechnologies, pourront être appropriés à travers de nouveaux modes de vie. Et ce bon environnement engage donc un lien direct avec l'expérience du quotidien, avec l'expérience que l'homme a de son environnement, pour presque paraphraser Dewey. Avant la suite, il convient également de ne pas oublier que ce sont les populations actuelles, on peut le déplorer ou non, hein, qui décident, parce qu'elles sont là, de ce qui constitue le bon environnement, notamment pour les générations qui ne sont pas encore là ou qui ne sont pas en âge de défendre leur point de vue. Alors notre contribution à tous les deux va tenter de définir quel cadre d'action ce nouveau rapport à l'environnement, qu'on peut qualifier de tournant sensible, met en place pour l'urbanisme. Et je passe la parole à Sylvie.
Et je lui passe même carrément le micro.
Alors moi, je vais revenir un peu en arrière. En partant de l'idée que le tournant sensible de l'urbanisme actuel, il est difficile à dissocier d'un tournant pragmatique en fait qui a accompagné l'aménagement des espaces publics. J'ai vu enfin une évolution comparable à celle que Jacques Rancière a vue dans l'art quand le beau plus académique a été remplacé par des expériences subjectives, mais surtout beaucoup plus fragmentées. L'expérience ordinaire, effectivement, est mobilisée aujourd'hui pour l'attractivité et le confort des espaces publics, comme cette place aménagée sur un parking en Pologne. On est passé d'une approche où il y avait une distance entre l'homme et ce qu'il perçoit, à une conception qui invoque des perceptions, des actions, des affects, qui renvoie en fait à des manières d'utiliser l'environnement. D'où la première photo avec des jeunes garçons se baignant un soir de juin à Nancy. Et en fait, cette approche-là, on la voit émerger dans les années 80, dans l'évolution des projets urbains, avec l'accent qui est mis sur l'individu et ses manières d'être. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite à Isaac Joseph et la définition qu'il donne de l'espace public comme théâtre d'action. Lyon est une ville assez intéressante pour ça, parce qu'avec Jean-Pierre Charbonneau et d'ailleurs Isaac Joseph, qui était à ce moment-là à l'université là-bas, l'aménagement essaye d'intégrer justement cette vie via des artistes, mais aussi en mobilisant les compétences des citadins avec les danseurs de hip-hop qui, à ce moment-là, ont investi les arcades de l'opéra. Cette évolution, elle a trouvé une conjonction en fait avec l'envahissement, parce que c'est aussi le moment où les paysagistes investissent largement les aménagements urbains, avec une conception, comme le dit Michel Corajou, où l'espace doit stimuler des imaginaires d'usage et offrir des opportunités. La conception des paysagistes va s'attacher à des actions, à des postures, ce qui se retrouve d'ailleurs dans l'Arche des Jardins. Mais à ce moment-là, elle est clairement guidée par l'expérience au présent d'un milieu de vie. Donc on retrouve cette immédiateté. Alors, en quoi est-ce ce qu'on appelle une écologie de l'expérience? Pour ça, je reviens un peu plus en arrière, dans les années 60, avec le personnage de Jacques Simon, qui est un des pères de tous les paysagistes français, qui a diffusé en France l'approche du paysagiste américain Lawrence Alprim, qui se définit lui-même comme un paysagiste écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il se réfère directement à John Dewey. Et il recherche dans la conception des espaces une esthétique qui est associée à l'expérience d'un environnement dans lequel et avec lequel se déroulent les activités humaines. Alors, ces activités en ville, c'est prendre le bus, s'installer à l'ombre, aller d'un endroit à l'autre. C'est des actions quotidiennes. Et il part de ces activités pour redessiner les espaces publics, à l'image de cette avenue Nicolet, où il rompt complètement la perspective classique de la rue à partir des usages qu'il y a sur les trottoirs, en l'occurrence. Alors en France, on a des approches qui nous arrivent de manière comparable, qui sont largement relayées par Henri Lefebvre, par les situationnistes, par les chercheurs du CERFI, fondé par Guattari, dont Isaac Joseph fait partie, entre autres. Ils se font largement le relais des capacités des citadins à organiser leur propre situation de vie. Par contre, on n'a pas du tout cette même traduction dans les espaces urbains et dans leur conception. Bien sûr, on renvoie toujours à la lisibilité de la ville de Kevin Lynch, mais dans la traduction française, elle a perdu sa dimension beaucoup plus charnelle, où pour Kevin Lynch, il s'agissait de mettre le monde à la portée des sens et d'accroître la profondeur et la finesse de nos sensations. La difficulté à inclure les affects et les sensations traduit en fait une extériorité. Et c'est Claude Schneit, l'architecte qui était en fait directeur de l'Institut de l'environnement, qui disait qu'avec l'environnement, l'homme s'est retrouvé en situation d'environner et a perdu tout lien avec son milieu. Et au contraire, Lorenz Halprin, sur qui j'ai plus axé ma partie de la présentation, lui fait de ce lien homme-milieu une ressource pour la conception des espaces. Et alors, il était marié avec une femme chorégraphe, Anna, et avec elle et un architecte, Jean Byrne, il a développé une méthode de conception qui s'appelle RSVP, qui prend en compte justement la nature relationnelle des espaces, avec, et c'est aussi une méthode en fait collaborative, hein, donc qui va impliquer aussi d'autres personnes. Avec les ressources qui sont ce qui est à disposition dans un environnement, dans la définition large que donnait François, avec les actions humaines et leurs motivations. L'élément important, c'est ce qui est appelé, traduit par structure en français, mais le mot anglais, c'est score. Où là, il y a une référence évidente à tous les systèmes de notation chorégraphique, où on est dans une... on décrit en fait l'agencement des ressources dans un espace et dans le temps. Donc la dimension temporelle est indissociable de ce rapport sensible. Et c'est une inscription, au sens que lui donne Bruno Latour, à partir de laquelle se met en place une discussion, un partage et une collaboration, avec ensuite une étape de réarrangement et l'exécution. Alors aujourd'hui, ce type de conception qui part en fait de comportement et de manière d'être, en ville, elle est assez courante. Elle a été largement mobilisée dans toutes les opérations d'introduction de la nature en ville, de naturalité, avec un engagement citoyen. Mais nous, ce qui nous préoccupe dans nos réflexions, c'est comment cette approche, on peut l'amener justement plutôt à l'extérieur des limites de la ville agglomérée, là où les paysages périurbains ne semblent plus avoir de lien avec une réalité sensible, ou en tout cas ne sont pas définis comme tels. Alors nous, c'est vrai que si on va s'attacher aux formes, mais en travaillant sur la périurbanisation autour de Reims, on s'est rendu compte que c'était pas vrai si on s'attachait à la vie des espaces. On a identifié des formes de structuration urbaine qui est liée non pas à des déplacements pendulaires domicile-travail, mais qui est liée à la manière dont des habitants s'organisent au quotidien dans une mosaïque de lieux très différents et parfois même assez distants. C'est une configuration qui n'est pas basée sur la continuité, c'est une configuration de nature topologique qui est liée à ce qui se passe dans ces lieux et qui présente la particularité d'évoluer toujours localement et surtout de façon aléatoire. J'avais fait une communication à Paris-Val-de-Seine avec Jacques Glowinski et j'y avais trouvé un parallèle avec le système régulateur qu'il mettait en avant. Alors nous, on y cherche en tout cas, plus qu'on y trouve pour l'instant, une alternative à une planification surplombante. William White l'avait envisagé, puisque lui, il proposait une planification régionale à hauteur d'œil, en partant de l'endroit où on se trouve, de ce qui s'y passe, du nombre de personnes qu'il y a, du moment. Mais il s'est retrouvé face à une difficulté de représenter cette réalité vécue, et il n'a jamais réussi à savoir quoi en faire. Avec le développement des outils numériques, paradoxalement, si on a suffisamment de relais pour alimenter les bases de données, c'est quelque chose qui peut être possible. Et d'ailleurs, des agglomérations comme Boston et New York s'en sont saisies. Elles proposent, pour gérer les systèmes de mobilité, des cartes interactives où les associations, les habitants, les communautés vont alimenter la carte avec ce qu'ils ont à disposition comme offre de service ou comme offre de mobilité. Mais surtout, ils peuvent aussi indiquer ce qui leur manque. Voilà. Du coup, on a en fait un système qui cherche à renouveler des stratégies de mobilité en visualant des possibilités dont on peut se saisir ou pas. C'est les bases d'un adaptative planning. Bon, pas si évident que ça à mettre en œuvre, mais ça, François va nous le montrer.
OK. Oui, super. Merci. Une écologie sensible suppose donc une approche de l'aménagement que l'on peut qualifier adaptive planning, donc aménagement adaptatif. Alors c'est une approche qui propose en fait d'abandonner l'aménagement prescriptif traditionnel pour aller vers un aménagement qui développe des processus collaboratifs associant de la conception à la prise de décision, et c'est ça qui est important, non seulement praticiens, politiques et techniciens, mais aussi les habitants, les associations et d'une manière générale, l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas toujours le même. Alors une telle position n'est pas facile à tenir parce qu'il y a toujours des pressions de la part des élus comme des habitants pour obtenir des réponses rapides en aménagement. Or, dans une perspective sensible, il est important de le rappeler, il n'y a pas de bonne solution unique. Il y en a plusieurs qui varient selon la manière dont celui qui propose la solution perçoit son environnement. Hop là. Perçoit son environnement. Jan Gehl a bien montré que l'aménagement d'un réseau viaire, par exemple, est tout, mais alors tout, sauf un problème technique à réponse unique concernant la largeur des voies ou l'implantation des feux de signalisation. En fait, il s'agit plutôt de répondre à la question suivante : qui et quelles activités devraient être prioritaires dans des rues bondées de monde ? Et s'il y a bien une question politique, c'est bien celle-là. Et la réponse dépend bien évidemment de l'usage et des intérêts des différents groupes humains. Si un groupe gagne, par exemple en créant de nouveaux passages piétons pour traverser les rues, plusieurs autres perdent, les résidents à proximité de ces passages soumis à une nuisance sonore plus importante, les commerçants dont le temps de stationnement des clients ou des livraisons est limité, etc. Je pourrais vous rappeler aussi les problèmes de la piétonnisation des voies sur berge à Paris, qui est particulièrement intéressante de ce point de vue-là. Une démarche d'aménagement adaptatif permet donc de répondre à des « wicked problems », c'est-à-dire des problèmes pernicieux. Un problème pernicieux, par définition, c'est un problème impossible à circonscrire et à décrire de manière univoque. Il admet de multiples solutions, elles sont toutes valides entre elles. Le problème, c'est qu'elles sont antagonistes. Je vais considérer, par exemple, le problème de la ville de Ponca, dans l'Oklahoma, où il y avait une centrale à charbon qui était toute proche de la ville. C'est un cas qui a été développé par Crean et Burks. Sous la pression des habitants, la mairie a saisi l'État, contre l'État de l'Oklahoma, contre la société qui gérait la centrale, au motif que l'air de la ville était chargé de poussière noire et de particules de charbon. Alors les experts du Department of Environmental Quality, donc le DEQ de l'État, ils disent non, pas du tout, ils contestent la requête. Selon eux, il n'y a pas d'émission excessive de poussière. Du coup, la mairie s'énerve et carrément, elle porte plainte en justice. Et là, elle obtient gain de cause. Et le procès montre que le critère qui était déterminé par l'expertise de la DEQ était la traversée de la limite communale par la poussière devait être visualisable, au sens de « physically seen », ce qui est complètement impossible à démontrer matériellement, à moins d'être là, regarder avec un microscope en l'air la poussière qui passe. Le nouveau critère devenait la preuve sans ambiguïté que de la poussière a bien traversé la limite communale, comme de la poussière sur les voitures. Ce qui était évidemment bien plus facile à observer. Les parties prenantes de ce conflit avaient donc une perception très différente de la manière d'évaluer la qualité de l'air. La perception très positiviste de la DEQ utilisait des données purement quantitatives et d'ailleurs complètement irréalisables, tandis que la mairie mettait l'accent sur ce que les habitants éprouvaient physiquement dans leur vie quotidienne. Je peux voir la poussière de charbon sur ma voiture, sur les meubles de ma maison, ça pue et ça diminue ma qualité de vie. Dans l'aménagement adaptatif, par sa nature participative, le rapport des habitants à leur espace de vie va évoluer à mesure que ceux-ci s'impliquent dans la vie locale et utilisent les espaces qui les environnent. Il y a donc une identité de lieu qui se crée, des communautés d'intérêts qui se créent également. Structurées autour des questions de qualité de vie, elles aspirent à devenir de véritables acteurs institutionnels, c'est-à-dire de prendre part à la décision. Ce cadre d'action qui est modelé à partir de l'environnement quotidien inclut des dispositifs de décision et de gestion qui intègrent également, bien sûr, la part immatérielle des usages, des pratiques et également des sentiments. Alors, c'est l'objet d'un projet de recherche européen, Smart Urban Green, que l'on mène avec Sylvie dans le cadre d'un programme JPI Urban Europe et qui essaye de montrer comment l'évolution des paysages est la manifestation d'un certain nombre de pratiques émergentes. Mouvement NIMBY, conflit, création de collectifs d'habitants, deux minutes, c'est pas vrai, j'avais regardé, j'avais mis ma montre, mais c'est pas grave, on va tenir quand même, pouvant produire des gouvernances plus organiques, plus collaboratives. Ici, le paysage comme expérience du réel devient une clé de lecture pour identifier des processus d'appropriation ou de réappropriation, au cours duquel des pratiques vont se reconfigurer via des habitudes, des ruses ou même des bricolages. Alors ce projet nous a amené à réaliser que construire cet aménagement adaptatif centré sur une écologie sensible ne va pas de soi, pour deux raisons. La première, c'est que les personnes concernées ne sont habituellement pas conscientes des construits et des valeurs qui vont sous-tendre leurs perceptions et leurs activités. C'est pas de moi, c'est de William Rees. D'autre part, on a une grande difficulté qui réside dans le manque de légitimité accordée à ce type de démarche et aux résultats qu'elle peut produire. Aux Pays-Bas, c'est assez drôle, dans la province du Limbourg, il y avait une étude transdisciplinaire qui associait les habitants et qui était censée mettre en place une politique d'aménagement durable. Elle n'a jamais été validée par les autorités locales et régionales. Elles avaient pourtant commandité l'étude. Pourquoi ? Parce que pour eux, les acteurs de la société civile et les scientifiques, excusez du peu, qui s'étaient impliqués, eh ben, ils n'avaient pas de mandat politique pour définir ce qu'était le développement durable. Vous voyez ? Voilà. Question de légitimité, et je terminerai là-dessus, qui se pose également à l'autre bout de la chaîne des acteurs. Pourquoi, au fond, pourquoi diable, des habitants seraient-ils motivés à transmettre des informations ou faire des suggestions pour aider l'aménagement de leur espace de vie, comme dirait Jacques à Sao Paulo. Mais pourquoi ils feraient ça? Le cas des points d'eau publics, Smart Urban Green, le cas des points d'eau publics dans la ville indienne de Pune, qui est décrite par Louis Bettencourt, aucun rapport avec Liliane, montre toute la difficulté. Du point de vue des habitants, les critères principaux d'implantation d'un point d'eau sont la distance à parcourir depuis chez soi et une attente réduite à la pompe. Et ça plaide pour un très grand nombre de points d'eau assez rapprochés. Oui, mais pour que l'aménageur sache combien de points d'eau implanter et où, alors il a besoin de l'information des communautés locales elles-mêmes. Et les habitants sont eux les seuls à connaître la limite réelle des communautés de voisinage, les limites d'usage, leurs besoins. Mais ils ne donneront cette information que lorsqu'ils ont le sentiment qu'elle leur permet de participer à la prise de décision, c'est-à-dire lorsqu'elles estiment que l'aménageur est digne de confiance. Et ça, bonjour chez vous. C'est un véritable travail de démontrer que nous ne sommes pas des guignols. C'est pas gagné. Ce type d'aménagement adaptatif et participatif implique donc la confiance autant que des connaissances intuitives et pratiques, et il implique surtout de comprendre comment les personnes et les institutions, c'est vrai à l'échelle locale, mais là, d'ailleurs c'est vrai à toutes les échelles, répondent et résistent au changement. Et je vais donc passer la parole pour conclure, ce sera très très court, à Sylvie.
Je vais dire juste le début et la fin. Donc on voit bien que ces ajustements qui prennent en compte le vécu sont pas évidents. Surtout, ils nécessitent en fait une familiarité. Ce que Laurent Thévenot appelle ça un engagement perceptif tactile, donc ce qui nous ramène à nos sujets, et qui est indispensable pour adapter une fonctionnalité, un usage ou des repères locaux. C'est ce qui est en jeu dans la mobilisation du sensible en aménagement, avec qui milite aussi pour remettre l'homme dans l'environnement, Avec SCI, c'est justement possible aujourd'hui, c'est parce que les frontières entre tout ce qui est construction rationnelle, subjective, humaine et non humaine ont largement bougé et nous amènent à composer non pas avec des consensus comme alors que pourtant, on en a largement l'habitude et on continue à le faire, mais plutôt à composer avec des dissensus.
Attends, on va faire ça. En... Merci. Non, mais attends, merci. Non, ça fait... Voilà.